BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
Et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business, l'émission au service de votre argent qui vous aide à devenir de meilleurs investisseurs. Alors, au programme de notre première heure, pas mal de choses, pas mal de bourses. On a eu énormément d'actualités ces derniers jours. Retour sur l'info qui fait un petit peu bouger les marchés. On sera avec Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants, Laurent Grassin, directeur des contenus chez Boursorama. Ils seront tous les deux avec nous. On parlera entre autres de ce premier coup de mou d'ampleur sur Nvidia, sur l'increvable Nvidia, la Rolls de la carte graphique, l'ex-première capitalisation boursière mondiale. Donc on va s'interroger un petit peu sur les signaux que ça envoie à l'ensemble du marché et de quelle manière ça peut être parlant de l'état d'esprit des investisseurs. Évidemment, on retrouvera Aude Kersulec à Euronext Paris pour commenter la bourse. On aura le match des traders aujourd'hui, Valentin Nicot de Bourse Direct contre Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro. 10h30, évidemment, Nicolas Dose, votre dose d'économie comme tous les jours, de l'immobilier en deuxième heure, bien sûr, avec Marie Cœur de Roy et son invité du jour, Stéphane Briand du pôle immobilier de Net Investissement. Évidemment, au cœur de cette émission, vous, bien sûr, les auditeurs, les téléspectateurs, et vous avez la parole pour nous joindre en email, c'est direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez écrire à Lorraine Goumeau directement sur sa boîte privée sur LinkedIn ou nous envoyer un SMS au 732-16. Vous tapez le mot business juste avant, suivi de votre message dans le même texto. Tout de suite, on part à Euronext Paris pour faire un point sur la bourse.
Votre programme avec Salva Bagarance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Aude Kersulec à Euronext Paris. Alors bon, je vais lire les cours pour vous pendant que vous parlez, parce que je sais que vous avez un léger souci technique, ça doit être un petit problème de réseau, pas bien grave. Le CAC 40, plus 0,48%. On était au-dessus des 7700 points en début de séance, et puis là, on s'effrite un petit peu, on repasse légèrement en dessous. 7698 points, on sent que la semaine est en dents de scie, mais on s'apprête à la terminer quand même sur une tendance à peu près positive, si ça se maintient.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Bon, à tout à l'heure, Aude Kersulec, un petit point sur la bourse rapide. Le CAC 40 plus 0,47%, on est donc à 7698 points. Beau rebond d'Eurofin Scientifique, ça fait la deuxième séance de hausse consécutive après quand même des séances très très turbulentes et l'annonce de cette étude de Muddy Waters sur d'éventuelles malversations, des accusations graves autour d'Eurofin Scientifique, évidemment qui ont été prises très très au sérieux puisque Muddy Waters a été au cœur de scandales qui ont été dévoilés alors autour de Solution 30, autour de Casino, bien sûr. Ça a été la mèche longue autour de cette affaire. Là, pour l'instant, Eurofin Scientifique continue de regagner un petit peu de terrain. Donc 3,3%, on est en tête des progressions du CAC 40 à 47,55 €. À noter Sanofi. Belle semaine pour Sanofi, de belles tendances positives, malgré la tendance générale qui était un peu en dents de scie. Le titre est bien orienté encore ce matin, plus 1,6%. On est à 92,33 €. Un coup d'œil sur les autres valeurs qui performent bien, mais on a quand même traîné de surperformance des technos. Alors ça, c'est à noter. On a un Euronext Tech Leaders qui surperforme les indices généraux du plus 0,96% là en ce moment, alors que le CAC 40 gagne 0,47%. Belle tendance positive autour de Dassault Systèmes qui prend 1% à 35,58 €. On a Capgemini aussi, plus 0,95% à 191,30 €. Et puis on en reparlera justement dans le journal de votre argent, le secteur bancaire qui continue de se refaire une santé. Alors peut-être parce qu'il y a quand même des perspectives autour de l'IA qui pourrait changer le métier de la banque. Ça, c'est plus une tendance de fond, mais on sent que là, il y a un vrai rattrapage après des semaines très compliquées, bien sûr, avec la politique, le résultat des élections européennes, la dissolution, tout ça a pesé très nettement sur le secteur bancaire qui se refait une petite santé en cette fin de semaine. À noter Vivendi qui gagne 0,23%, le secteur du luxe qui se porte pas trop mal, Kering gagne 0,6% à 327,20 €. À noter Bouygues qui signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 1,3%. On est à 30,40 €. 1,90. À noter ArcelorMittal qui recule de 0,73%, 21,73, Pernod Ricard moins 0,6% à 133 euros. Un petit coup d'œil hors indice sur l'indice SBF 120, c'est Elior qui signe la plus forte baisse à moins 2,2%, 2,87 euros. Et en tête, on revient sur Vusion Group qui gagne 4,5% à 132,30 €. Je voulais juste vous parler des taux parce que ça a été vraiment un enjeu sur l'ensemble de la semaine et c'est passé un mouvement qui était assez étonnant, c'est-à-dire qu'en début de séance, on avait des taux 10 ans français qui avaient tendance à reculer sous 3,1%. 3,1%, c'est vraiment un niveau important. C'est le niveau qu'on avait le vendredi juste avant les élections européennes et l'annonce de la dissolution. Et à chaque fois, en début de séance, on avait un taux qui s'apaisait, qui se contractait du côté de 3,09. Et à chaque fois, en milieu de journée, à l'approche de l'après-midi, ça remontait du côté de 3,12, 3,13, 3,14. Là, on est à 3,13 ce matin. Et on sentait véritablement que du côté des investisseurs américains, il y avait énormément de pression qui était mise sur nous. Un coup d'œil sur le spread, il reste stable, du côté des 70 points de base par rapport au Bund allemand 10 ans. On est à 2,42 là en ce moment. Donc, globalement, la situation reste globalement maîtrisée en attendant, évidemment, le résultat des élections législatives. Sur les matières premières, le Brent de Mer du Nord a légèrement corrigé. On était au-delà des 85 $ en ce milieu de semaine. Là, on a tendance à corriger à l'approche de la fin de semaine. On est à 84,44 $. Allez, le CAC, plus 0,49. On est à 7700 points. Et on va doucement se diriger vers le match des traders parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les aspects techniques du CAC 40 ce matin.
Tout pour investir. Le match des traders.
Et avec nous ce matin, Valentin Nico de Bourse Direct et Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro. On va peut-être commencer avec vous, Antoine Fraisse-Soulier. Donc un CAC 40 qui a l'air de vouloir se tenir sur les 7700 points. Mais on sent que depuis le début de la semaine, c'est vraiment en dents de scie. Depuis la fin de semaine dernière, encore beaucoup d'instabilité. Mais des niveaux techniques qui sont assez identifiés parallèlement.
Oui, en effet, c'est vrai que le CAC 40 se stabilise maintenant. On a deux bornes assez larges, donc c'était le point bas du vendredi 14 juin, c'est 7470, et la borne haute c'est 7850. Donc on a quand même une bande assez large de fluctuations, mais on voit que il n'y a pas de mouvement de panique sur le CAC 40. On est vraiment dans l'expectative, évidemment, avec les deux échéances qui vont intervenir très prochainement. Et on voit même qu'on a des rachats à bon compte, puisque le on voit des valeurs qui rebondissent. Je pensais à du Air Liquide par exemple, ou des valeurs de fonds de portefeuille. En revanche, bon, c'est vrai qu'il y a des petits gadins, puisqu'on a vu Airbus hier qui avait perdu quasiment 10%. On sent qu'il y a quand même de la nervosité. On sent une certaine nervosité dans les marchés en général, d'ailleurs, puisqu'on a. Pas y revenir, mais bien sûr, vous avez vu qu'il y avait une correction qui s'était engagée sur les valeurs technologiques. Il y a aussi les valeurs traditionnelles qui se replient un petit peu. Donc, on est vraiment dans un marché en attente qui respire un petit peu parce qu'on est quand même sur des belles performances depuis le début de l'année pour l'ensemble des marchés développés. Même le CAC 40 est en hausse de 2% depuis le début de l'année. Donc, il n'y a pas encore péril dans la demeure, si je puis m'exprimer ainsi. Mais effectivement, en plus, on va terminer dans trois séances, c'est la fin du premier semestre. Donc, il n'y aura pas vraiment beaucoup de risques qui vont être pris. On aura des ajustements de portefeuille. Vendredi, on a les chiffres d'inflation qu'on va surveiller, bien évidemment, aux États-Unis, mais aussi en zone euro et en France. Mais d'ici là, je pense qu'on va évoluer de manière assez latérale. Alors sur le CAC 40, pour revenir sur les bandes de fluctuation un peu plus serrées en intraday, eh bien on a tout d'abord 7720, donc c'est le point haut d'hier. On est plus très loin. Si on dépassait 7720, on pourrait aller rejoindre pourquoi pas les 7850 dans une extension. En revanche, si on repassait sous les 7580, eh bien on pourrait revenir sous les plus bas d'il y a dizaines de jours à 7460, mais je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'on va vraiment rester dans une bande de fluctuation assez étroite avant, évidemment, le premier tour des législatives.
Valentin Nico de Bourse Direct. Alors, vous avez à peu près les mêmes repères, un même sentiment sur la tendance, où vous sentez peut-être des choses venir, on le disait, à l'approche des élections, justement.
En effet, si on cadre un peu ce qui s'est passé dernièrement, on a eu 2 semaines de baisse qui nous ont emmené à 9% de correction. Sur ces 9%, on en a regagné 3 cette semaine. Et donc là, nous, on est plutôt sur une anticipation de latéralisation. Il y a eu des nouveaux risques qui ont clairement été pris dans le marché, dans les anticipations. De manière générale, techniquement, nous, on reste positif tant qu'on est au-dessus du pivot 7653, qui est un peu notre zone de décision. On avait donné une cible à 7740 pour le rebond, justement, le dernier rebond de 3%. On est arrivé sur cette zone. On corrige, on se reprend un peu ce matin. Maintenant, on n'a pas vu beaucoup de soutien sur la position ouverte, donc les marchés dérivés pendant le rebond également, ce qui ne nous a pas amené à avoir de super anticipations. Donc on va être quand même très, très vigilant sur les niveaux actuels, parce qu'encore une fois, sous les 7653, si on est en clôture en dessous, nous on envisage un retour encore une fois autour de la zone 7550. 7530 pour être exact. Donc il y a bien plus de risques en cas de cassure. Donc on est méfiant et actuellement on est plutôt sur une zone où nous on est couvert. Donc très méfiant sur ce marché avec des risques qui rendent la volatilité assez puissante par moment. Donc vraiment vigilance avec les beaux jours qui arrivent.
Oui, et puis on sent quand même toujours beaucoup de volatilité. Ça ne joue pas à tellement de points, hein, mais c'est vraiment des questions de tendance, hein, depuis la semaine dernière. On sent vraiment que les investisseurs sont relativement stressés. Allez, tout de suite, on passe au journal de votre argent.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Avec Laurent Grassin, directeur média chez Boursorama, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et puis avec nous, au milieu des montagnes suisses.
Encore ?
Oui, il y a encore. C'est Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Merci pour ce bol d'air, on vous voit. Et franchement, ça fait du bien. Il y a de la verdure, c'est beau. Et dans ces marchés un petit peu secoués, on a quand même besoin de prendre des petites pauses comme ça. C'est quand même bien, donc... Bonheur à vous et on va parler d'énormément de sujets qui ont agité l'actualité boursière ces derniers temps. Laurent Grassin, j'ai peut-être commencé par vous. Incroyable, Nvidia, le super géant de la carte graphique, a son premier coup de mou. Ouais. Alors, coïncidence, ça arrive juste après qu'ils aient signé le top numéro 1 mondial des capitalisations boursières. Plus grosse entreprise du monde, devant Apple, devant Microsoft, devant Saudi Aramco, etc. Juste après, coup de mou. Bon, on peut penser à un mouvement technique. On voit d'ailleurs, je vois souvent passer, il y a des fils Twitter qui suivent un petit peu ce qui se passe au capital des entreprises. Il y a pas mal de responsables de chez Nvidia qui vendent un petit peu parce qu'ils ont gagné 10 milliards de pourcents.
C'est ça.
On est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a le vrai premier coup de mou autour d'Nvidia?
Alors, le problème avec Nvidia, c'est que, vous l'avez dit Antoine, c'est 3000 milliards. Donc, tout prend tout de suite des proportions assez
macroéconomiques.
Voilà, donc on se dit effectivement, ils ont perdu 13%, donc c'est 430 milliards de dollars perdus, évaporés, mon Dieu, incroyable. On rappelle, c'est 3 séances de baisse. Hein, et puis, une séance de baisse marquée autour de 7%. Et hier, ils ont fait plus 7%. Ils avaient mal commencé d'ailleurs la séance, et puis ils ont terminé en hausse. Donc, vous l'avez très justement dit, on est à un top, on a quand même signé un record. Il faut quand même faire des pauses de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de banques, d'analystes nous disent un petit peu en ce moment. C'est quand même pas trop mal de souffler, d'autant plus que finalement, on est dans cette période un petit peu creuse. On a eu les résultats trimestriels qu'on surveille. On a bien sûr les semestriels qu'on va regarder. On est à l'approche de l'été. On va avoir un petit peu moins de volume, un petit peu moins de volatilité comme quoi. Enfin non, un peu plus de volatilité, pardon. Ce qu'on voit aussi quand même... ce qui est assez intéressant, c'est de regarder si les vendeurs à découvert, puisque il semblerait-il, s'intéressent à l'action. Et on voit aujourd'hui que ils sont assez frileux, en fait. Ils ont vraiment peur de se faire prendre à contre-pied.
Ça leur est arrivé un paquet de fois. Il y a eu le cas Tesla avant où
exactement.
Ça a été un carnage.
Et donc, parce que finalement, la question, c'est est-ce que, voilà, on va rentrer dans une ère de plus de volatilité de Nvidia avec peut-être des mouvements où on va être moins dépendant des résultats et on va peut-être plus avoir, comme ça, des séances un peu plus marquées. Ouais. On voit bien quand même qu'il y a encore beaucoup de prudence. Comme vous l'avez dit, Antoine, il y a beaucoup de gens qui en ont dans leur portefeuille.
Ouais, bah oui.
Donc,
c'est un petit peu un benchmark en fait. On l'achète comme on achèterait du Nasdaq.
C'est ça,
comme
ça, exactement. Et après, ça pose aussi la question et plus générale, toujours du poids d'Nvidia maintenant dans la bourse américaine. Cette stat, hein, le S&P 500 14% depuis le début de l'année, les couilles pondérées plus 5 seulement. Ça veut dire que si Nvidia commence à tanguer, on va avoir l'impression que c'est toute la bourse américaine qui tangue.
J'avais lu au top, c'était 7% du S&P 500. Hein,
ouais. Sur l'importance que ça a. Donc, on voit ce que ça charrie. Après, sur un voilà, donc peut-être un petit peu plus de volatilité, pourquoi pas une espèce de cycle baissier qui serait engagé, j'y crois moins, d'autant que tout ce qu'on nous dit encore sur l'IA, c'est qu'on est encore dans cette première phase où les gens achètent de la puce. C'est pas fini.
Ouais.
Donc fondamentalement, les carnets de commandes, c'est pas comme si voilà, ils allaient se dégonfler du jour au lendemain. Ils sont encore là. Voilà, j'attendrai un peu avant de m'inquiéter pour Nvidia.
Pour ceux qui aiment la bagnole, on pense même pas encore à tuner le moteur, on finit juste de le construire.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et voilà, on ouvre le capot, il y a marqué Nvidia partout. Ce que je vous dis, c'est.
Exactement.
Alors, Félix Baron, fondateur du club des investisseurs indépendants. Votre avis sur Nvidia? Est-ce que c'est finalement, voilà, justement le cadeau empoisonné, c'est-à-dire un truc macroéconomique qu'il faut avoir, mais sur lequel maintenant il va falloir être peut-être un tout petit peu plus vigilant qu'avant?
Bonjour Antoine. Moi, ce que je vois sur Nvidia, c'est que je préfère un dégonflement de la bulle toujours plus à un éclatement. Il y a un double sujet sur Nvidia. C'est d'abord celui de sa valorisation par rapport à la réalité du marché de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième sujet, c'est l'influence de Nvidia sur le Nasdaq. Laurent vient d'en parler. Évidemment, on voit que les analystes et tout le marché, la majorité du marché, préfèrent attribuer la baisse de Nvidia à une respiration. Les analystes Bank of America le disaient. Le juge de paix sur la valorisation de Nvidia, ça va être les prochains trimestriels. Tant qu'il y a de la croissance des revenus, ça va rassurer le marché, quel que soit le prix de Nvidia. Mais la réalité, c'est que si l'intelligence artificielle est incontestablement une technologie de rupture, on peut profiter un petit peu de la respiration qu'on a en ce moment pour savoir, pour se poser des questions sur ce que ça va donner dans les prochains trimestres, dans les prochaines années. Pour développer l'IA, il faut du temps. Ça, du temps, on en a, mais il faut aussi des capitaux pour développer les applications concrètes. Et ça, on en a beaucoup moins des capitaux. Sans faire le vieux routard de la bourse, on se disait pareil au début des années 2000. L'internet, c'est une technologie de rupture, ça va changer nos vies, mais personne ne s'en servait au quotidien. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est une technologie de rupture, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire.
Alors, deuxième sujet hein, qui marque cette semaine boursière, gros coup de boue autour d'Eurofin,
oui.
Évidemment, avec le fonds Muddy Waters, les shorteurs qui font encore parler d'eux,
oui.
Révélation sur, alors c'est eux qui le disent, hein, une éventuelle structure qui favoriserait les malversations.
Oui, oui.
Bon, on a vu que le titre s'était quand même bien repris, mais loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant, ces révélations, hein, d'il y a une journée et demie. Globalement, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une valeur du CAC 40.
C'est une valeur
n'importe
du CAC 40,
quoi. C'était
oui.
Un ancien grand espoir.
Oui.
Une valeur de la santé. Les valeurs qui sont regardées en ce moment, parce que, visiblement, au milieu de la tourmente actuelle, elles ont du potentiel.
Oui.
Bon, voilà.
Spécialiste de la bioanalyse, oui, et c'est vrai. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, ça me laisse un goût un peu amer, Antoine, parce que finalement, on n'a jamais le fin mot, entre guillemets. Quand je me mets vraiment à la place d'un investisseur particulier, là, ouais. De ces histoires. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a le cas Eurofins aujourd'hui, il y a eu le cas sur Solution 30 il y a quelques temps, toujours.
C'était eux, hein,
c'est toujours Muddy Waters à la baguette. On
ils
a
étaient
eu,
à la base de Casino.
Ils étaient à la base de Casino. Là, bon, il y avait des éléments qui étaient quand même plutôt pertinents.
Oui.
On pourrait citer l'ancien SES Imagota qui est devenu Vusion Group avec, cette fois-ci, c'était Gotham Research. Ouais, et je crois que Shadowfall avait un petit peu enfoncé aussi le point sur ces sociétés. Et quand on est investisseur particulier, on a donc une attaque où effectivement il y a beaucoup. Alors il y a un rapport, 36 pages, qui est quelquefois assez technique. Moi-même, y compris quelquefois sur certains, quand ils expliquent des fonctionnements comptables de société, je comprends pas tout, je vous l'avoue. Hein, il faut vraiment rentrer dans certaines choses. C'est très, très, très technique. Souvent, la société va répondre en niant en bloc, avec plus ou moins de précision. C'est finalement, alors il y a quelques fois des plaintes au pénal, mais dont on n'entend jamais la finalement in fine ce qui est tranché. Et vous êtes investisseur individuel, vous avez acheté dans la boîte, elle se prend un méga pion. Ça a été le cas pour Solution 30 qui a mis énormément de temps, ça va un petit peu mieux maintenant. On voit que sur Eurofins, il y a déjà un mouvement de contrebalancier. On voit aussi que sur Vision Group, ça s'était passé en deux temps. Au premier temps, il y avait une forte réaction et après, ça avait rebondi. Mais vous êtes un investisseur particulier, vous restez là avec vos doutes.
Ouais.
Et je trouve, alors, déjà, il y a deux choses. Je vais un peu renvoyer tout le monde dos à dos, c'est peut-être un peu facile. D'un côté, je trouve ça quand même assez dingue d'avoir cette liberté de parole, de balancer comme ça des infos et qu'à un moment, une autorité réglementaire, la MEF, vienne pas vous dire attendez,
manipulation
si,
de cours,
si vous attaquez, en plus, vous avez une position de vendeuse.
Ils ne sont jamais pris d'attaque.
Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu. Alors, il y a peut-être des choses dont on n'est pas au courant, mais ce serait intéressant de dire ok, maintenant, les gars, soit vous avez du lourd et vous nous en parlez et on va vraiment voir un petit peu si vous êtes aussi transparent dans votre façon de faire. Et de l'autre, quand vous êtes une société cotée, eh ben, si vous êtes vraiment sûr, à la limite, il faut presque faire du point par point et dire « Ok, on va, ok, vous nous dites ça, sur tel truc. Mmh. » Après, ce que nous dit Refin, c'est que quelquefois, ils ont le chic aussi pour aller retrouver des choses qui sont passées très longtemps en arrière, qui ont été corrigées depuis. Dans la vie d'une société, il s'en passe, effectivement.
Ça, oui.
Donc, voilà, moi, ça me laisse juste, je me mets dans la place d'un investisseur qui se retrouve, qui sait pas trop, qui s'est pris un gros mouvement sur son action. Finalement, Solution 30 est toujours là, il continue à faire des résultats. Eurofins, à mon avis, il sera encore là demain.
Ouais.
Et après, je pense que c'est quand même ce que j'appelle un signal faible. C'est toujours intéressant de s'y intéresser. Je veux pas non plus dire, c'est scandaleux. Ça vaut le coup de creuser, de regarder et de garder ça à l'esprit. Mais d'un côté comme de l'autre, ça manque de transparence.
Ouais, complètement. Et puis on entre aussi dans le cadre des titres un petit peu à la casse. Alors ça, on en parle depuis des semaines dans cette émission, mais qui constituent des opportunités parce qu'il y a de la volatilité. Et donc,
exactement.
Donc de l'intérêt des investisseurs. Félix Baron, Eurofins scientifique. On est quand même sur un gros nom. Ça vous a inquiété également ce mouvement fort et ces inquiétudes structurelles? Bon zut, on vous entend pas. Félix Baron.
On a perdu le son, Félix.
Ouais, vous avez dû couper le son. On vous entend? Ah d'accord, bon bah écoutez, c'est pas très grave. On va continuer, c'est le vent des montagnes. Ça a dû faire bouger le réseau. Il y a un dossier aussi qui m'intéresse beaucoup. Là, c'est vrai que ça fait 2-3 semaines qu'on a un beau redressement du secteur bancaire. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert des résultats de l'élection européenne, l'annonce de la dissolution. Il y a eu de la pression à cause des mouvements sur le marché obligataire. Maintenant, il y a une thématique qui est sur toutes les lèvres pour le plus long terme, et c'est l'impact positif en termes d'activité. Là, je parle strictement en termes d'activité,
bien sûr,
de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est un petit peu le dernier secteur où on sent l'intelligence artificielle arriver, parce que c'est quand même la clientèle, confidentialité, données financières, etc.
Ouais.
Et on veut mettre l'ingrédient IA dedans. Selon vous, est-ce que c'est vraiment la dynamique de développement à suivre du moment obligatoirement?
Vous avez tout résumé, Antoine, j'ai plus rien à dire. Non, mais il y a les enjeux. Il y a les enjeux, il y a les besoins, il y a les contraintes.
Ouais.
Côté contraintes, on l'a dit, effectivement, quand vous êtes une banque, qu'est-ce que c'est votre trésor de guerre? C'est vos données clients. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Ce sont des données qui sont très précieuses et qui, quand vous les entraînez avec une IA, peuvent vous donner des choses, j'imagine, extrêmement intéressantes, avec toutes les contraintes. De confidentialité, de sécurité de la donnée, encore plus en Europe où on est plus réglementé. Ceci étant dit, et je suis sûr que vous l'avez vu passer comme moi, il y a cette étude de Citi qui est sortie sur la banque et les potentialités de l'IA. Et que nous dit Citi à l'échelle mondiale, il s'intéresse à l'échelle mondiale, les banques pourraient gonfler leurs profits de 170 milliards de dollars grâce à l'IA, donc c'est considérable. Échantillon a interrogé de 90 grands établissements financiers, et ce qui m'intéressait dans cette étude, c'est qu'ils expliquent qu'autour des deux tiers des heures de travail réalisées dans le secteur, 66% pour les banques, 62% pour l'assurance, représentent un grand potentiel, ou un très grand potentiel d'automatisation ou d'augmentation, c'est-à-dire que vous virez pas forcément des gens, mais vous avez des tâches qui se font plus vite, plus rapidement. On voit que quand vous êtes une banque, il y a beaucoup de process partout, quelquefois. Alors, ça peut aller de, par exemple, quand quelqu'un ouvre un compte, de la vérification des pièces d'identité, documents d'identité, d'un certain nombre d'éléments que vous devez analyser pour constituer un dossier de prêt, etc. On voit bien que dans ce cadre-là, l'utilisation de l'IA peut vous faire gagner du temps considérable, le tout avec des banques dont on sait qu'elles ont un enjeu d'efficacité, oui, parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, oh, les banques super riches, bah, les marges sont pas si élevées que ça. Donc oui, je pense que vous savez qu'on s'intéresse à la vague de l'IA, on est d'abord sur NVIDIA, hein, puis on regarde les secteurs, et je pense que quelque part le secteur financier est pas très loin. D'ailleurs, la meilleure réponse à ça, c'est que les autorités réglementaires, elles aussi, commencent à regarder et dire, oh là, comment est-ce que vous allez déployer ça? Elles sentent bien qu'il y a du potentiel dans le secteur et peut-être matière à revalorisation boursière.
Alors, c'est marrant parce que quand on était sur les chiffres d'évaluation de Citi à 170 milliards de dollars, bon, je fais peut-être mon blasé, moi je sors.
Vous avez trouvé ça que c'était pas assez.
C'est ça.
Ouais.
C'est quand on voit Goldman Sachs qui nous dit, attention, la voiture autonome, c'est 500 milliards de marché à horizon 2035. Bon,
je suis d'accord.
Venir. Et 170 milliards, c'est marrant parce que pour moi, c'est un potentiel qui m'aurait paru totalement délirant, justement, sur l'activité bancaire, mais on sent justement le poids de, attention, c'est pas une activité comme les autres.
Ben, ce que je me dis aussi, c'est que, alors, c'est peut-être moins le cas aux États-Unis, mais peut-être plus en Europe, on est quand même décoté sur le secteur européen, donc faut voir d'où on part aussi. Encore une fois, là, on était sur Nvidia, où on regarde la valorisation incroyable des profits et tout. Sur les banques, notamment européennes, il y a une décote, donc on se dit bien que toute chose étant égale par ailleurs, et encore une fois, je pense qu'on en est qu'au début. Et ça, c'est un des grands enseignements des cas d'utilisation de l'IA. Je pense que pour le moment, on fait des choses. On a des scénarios et on n'a pas encore, je pense, dans certains secteurs, compris tout le potentiel. Donc, c'est 170 milliards, c'est vrai. Ça peut sembler un petit peu décevant. Mais je pense que mettez ça entre les mains d'ingénieurs un petit peu calés, un petit peu plus malins que moi, par exemple. Et je pense qu'ils peuvent vous sortir des trucs assez balèzes.
C'est les poupées gigognes, quoi.
Exactement.
On ouvre, tiens. Mais ça a été toujours l'histoire d'Nvidia, en plus.
Ouais.
Les affichages, le gaming, la crypto.
Après, c'est la seule contrainte, c'est la donnée. C'est la donnée, la réglementation. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire avec ces données clients? Et c'est bien aussi qu'il y ait des limites. Attention, là, je ne suis pas là pour dire, oh là là, quel dommage. C'est aussi ce qui fait une banque. C'est le respect de ces données clients.
On a essayé de rejoindre Félix Baron parce qu'apparemment les montagnes n'ont pas été très clémentes avec le réseau.
Bienvenue.
Juste,
il a tiré une ligne.
Juste peut-être un petit mot à dire. On était en train de parler des dynamiques de développement potentiel du secteur bancaire grâce à l'intelligence artificielle. Selon vous, c'est le catalyseur à suivre dans le secteur qui est en train de se rattraper d'un strict point de vue boursier là depuis une semaine et demie.
Oui, je pense que Laurent l'a bien dit, la nature même de l'activité bancaire, assurantielle et de marché de capitaux, c'est quand même le traitement de la donnée et la gestion du risque, ne serait-ce qu'avec les transactions passées sur des places de marché, sur des dossiers de sinistre d'assurance ou sur des dossiers de prêt ou du contrôle du niveau des risques bancaires. Et ça, c'est des activités où le potentiel d'automatisation par l'IA est le plus élevé. Il y a une étude qui a été faite par Citi et Accenture Research qui montre que sur le secteur bancaire, il y a un potentiel d'automatisation de 54%, 48% avec l'assurance, 40% avec les marchés de capitaux. C'est trois des potentiels les plus élevés parmi les quatre premiers. Il y a aussi l'énergie, mais typiquement, tous les secteurs qui ont des activités très liées à la gestion de la donnée sont techniquement et mécaniquement ceux qui seront, comme vous le disiez Antoine, avec un gros catalyseur sur une application d'intelligence artificielle.
Merci infiniment Félix Baron, c'était un petit peu compliqué techniquement, mais enfin on vous a eu quand même sur les sujets essentiels de la semaine. Fondateur du club des investisseurs indépendants, Laurent Grincin, directeur média chez Boursorama. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, restez à l'écoute de Tout pour investir. On sera avec Nicolas Dose, votre dose d'économie.
Tout pour investir, dose d'économie.
Pour investir, tout pour investir, TPI sur BFM Business. Dose, votre dose d'économie est servie sur un plateau. Donc après le débat d'hier sur TF1, vous avez dû regarder, je suppose, il y avait le foot également, mais il y avait le débat.
Oui.
Où en sommes-nous sur les retraites? Sérieusement, Nicolas.
C'est très brouillard, mais on en est au même point fondamentalement. Vous avez les deux blocs à droite et à gauche qui veulent abroger la dernière réforme des retraites. Ça veut dire bouger l'âge légal de 64 à 62 ans. J'ai bien dit l'âge légal, parce qu'hier, il y a eu de la confusion qui est venue se rajouter. Alors, du côté du RN, il y a une chose qui est quand même martelée maintenant, c'est qu'il y a un dispositif spécial carrière longue dès l'automne, celui qui a commencé avant 20 ans, qui a eu 40 ans de cotisation, pourra partir à 60 ans. avant la fin de cette année. Donc voilà, c'est clair, ça, au moins. Mais alors après, en fait, Jordan Bardella a évoqué plus l'âge de la retraite à taux plein que l'âge légal. C'est-à-dire qu'il a, lui, le nombre d'annuités de cotisation qu'il préconise, c'est 42 ans. Alors qu'au terme de la réforme Touraine, on va à 43,5, on doit être à 43,5 d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, voilà ce que dit Jordan Bardella hier dans le débat, à très grand public. Hein. On est toujours là à vouloir avoir des réponses très précises, avec des bornes d'âge très précises. Celui qui a commencé à bosser à 24 ans, vous rajoutez 42 annuités, il part à 66 ans en âge à taux plein.
Bah,
même si l'âge légal, oui, mais l'âge légal peut être à 62, c'est pas l'âge à taux plein. Et donc ce matin, c'était, mais c'est combien l'âge ? Alors il y a l'âge légal et l'âge à taux plein, parce que c'est pareil. Le nouveau Front populaire qui vous dit j'abroge pour revenir à 62 ans d'âge légal, et même avec un objectif à terme, le terme on ne sait pas quand, à 60 ans, on parle bien d'âge légal de départ. Ça ne veut pas dire que c'est l'âge auquel on part à taux plein. Ça dépend de l'âge auquel on a commencé à travailler, du nombre d'annuités qu'on a réussi à accumuler. Donc voilà où on en est ce matin. Et ne pas confondre âge légal et âge à taux plein. Après, c'est les deux blocs disent-ils régulièrement que tout ça verra le jour progressivement. Il y a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. C'est une forme, enfin bon, la prudence ne nuit pas, on va dire. Et sinon, sur l'ensemble des offres politiques, y compris au centre, on promet d'indexer les pensions en 2025 sur l'inflation, parce qu'on ne va pas froisser les électeurs à quelques jours du premier tour, évidemment. Et on sait que c'est une population qui se rend aux urnes.
Alors, avancer l'âge de la retraite à 62 ans, bon, voire 60 ans, est-ce que c'est possible économiquement désormais ?
Sans problème, c'est parfaitement possible. Moi, je dis aujourd'hui 58 ans. C'est possible économiquement.
Allons-y.
Ben non, voilà. Mais
là, après, il faut quantifier le risque.
Et ben voilà, donc l'histoire de la retraite est un sujet qui est bêtement arithmétique. J'ai combien d'actifs aujourd'hui qui font vivre combien de retraités ? Combien je prélève sur le salaire de ces actifs tous les mois pour verser combien aux retraités tous les mois ? Et quelle est la part de ma dépense publique que je peux me permettre de consacrer au financement de mon système de retraite ? Et on sait que la borne d'âge, quand on la bouge dans un sens ou dans un autre, chaque mouvement d'un an de borne d'âge, c'est 15 milliards d'euros, en plus ou en moins. Voilà, donc voilà les éléments arithmétiques. Mais pourquoi pas 58 ans
hein. Alors, gros chiffre. Tiens, quand vous aurez fini, j'ai un truc que je voulais vous dire depuis un petit moment, Nico.
La révélation.
C'est la révélation. Alors, aujourd'hui, la France dépense 14 points de PIB pour ses retraites.
Oui. Hein,
c'est 350 milliards d'euros par an.
C'est hyper important. C'est le principal poste de dépenses publiques qui nous différencie du reste du monde. Le principal, hein. Il n'y en a pas vraiment d'autres, c'est celui-là. On est à 4 points au-dessus de la plupart des pays qui nous ressemblent. 4 points, ça fait un peu plus de 100 milliards. Donc là, effectivement, on a un vrai sujet. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 14 points de PIB consacrés aux retraites ? Sachant que même dans le système actuel, si on ne l'abrogeait pas, de toute façon, la facture ne peut qu'augmenter parce que le pays est en choc démographique et en vieillissement démographique. Donc, moi je dis oui, c'est possible. J'abroge la réforme des retraites. Je vais à 58 ans. Ça veut dire qu'en fait, abroger la réforme des retraites veut dire que je propose à l'ensemble de ma population un nouveau contrat social qui signifie on va travailler moins. Alors, très bien, on va travailler moins. Seulement, travailler moins, ça a un prix. Donc, économiquement, oui, c'est voilà. possible, mais si à côté de l'âge, on donne le prix. Voilà. Et donc, c'est quoi le prix ? Ben, vous voulez que collectivement, le choix collectif de la France, c'est de travailler moins. Et le prix, ce sera que les actifs devront payer davantage et probablement les retraités toucher moins. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est quand même, c'est ça l'histoire. Et donc, on peut vendre tout ce qu'on veut au bon peuple sur les retraites, sur les blocages de prix, sur la baisse de TVA, sur le retour de l'ISF en incluant l'outil de travail. Voilà. On peut vendre tout ce qu'on veut, mais à côté, on dit comment on fait, on dit quelles sont les conséquences, qu'est-ce que cela signifie. Si c'est un choix de travailler moins, on dit que ça a un prix. Si le choix, c'est de travailler moins jusqu'à 60, si c'est 58, oui, c'est possible, mais ça se paye. Et donc, on explique que ça a un prix et on est clair, net, précis sur qu'est-ce que ça signifie pour vous, tel choix, qu'est-ce que ça signifie dans vos vies. Voilà. Et donc, tout est possible dans la mesure où on donne l'ensemble des éléments. Quand vous achetez un produit, vous avez l'emballage, vous avez la composition du produit, vous aurez maintenant le Nutri-Score, vous aurez l'Eco-Score et vous avez le prix. Il y a tout. Voilà. Ben, quand on a tout, on sait ce qu'on achète. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qui manque. Il manque des éléments sur le packaging et il manque le prix. Moi, après, ma conviction, c'est que, bon, évidemment, ma conviction, c'est que, aller à 62, 60, c'est 58, c'est de la provoque quand je vous dis ça. C'est anachronique par rapport au sens de l'histoire et, à l'évolution démographique.
Là, pour le coup, même si tout est possible, parce que ensuite, l'arbitrage, c'est les marchés qui le font, c'est les courbes de taux, c'est.
Oui, et puis en plus, effectivement, c'est une contre-réforme des retraites. C'est comme des réformes structurelles pour une nation comme la nôtre, il n'y en a pas 25 000. Il y a les retraites, il y a l'assurance chômage, il y a les gros postes, si vous voulez. Une contre-réforme des retraites pareil, ça envoie évidemment un signal de risque de non-soutenabilité de tout, de tout ce qui va autour. Parce qu'on peut pas aller à 16, 18 points de PIB, 20 points de PIB pour financer les retraites. On est à 14. Voilà, il y a un moment où alors on dit oui, ça aussi c'est possible. Alors à ce moment-là, il faut que les marchés soient super généreux. On a déjà une pension sur 10 payée par la dette. Si on doit monter à 3, 4, 5 pensions payées par la dette... Bon, moi, ma conviction, c'est que le système par répartition, là, il va vers sa fin. Il est plus tenable et donc on devra faire de la capille. Dommage qu'on n'ait pas lancé les fonds de pension à l'époque socialiste de la fin des années 90. Mais les Pays-Bas ont mis en place de la capitalisation de manière très poussée. Moralité, eux, ils mettent pas 14 points de PIB dans les retraites, mais 7. Et les pensions sont 30% supérieures aux pensions françaises.
Ok, bon. Ce qui m'amène à ma petite question.
Alors,
bonus,
la petite question.
Nicolas. Alors, en plus, je vous avais écrit un mail, vous m'avez pas répondu.
À quel sujet?
C'était... le choc sur les taux de la dissolution, l'instabilité politique en France, vous êtes mis à comparer ça dans votre émission au choc qui a eu lieu au Royaume-Uni.
Ah oui, le Royaume-Uni, en 2022, à l'automne. Oui.
Le FMI aux portes de Londres, machin et tout. Pourquoi?
Ben c'était parce que le pays était rattrapé par le marché, il y avait un risque de survie pour les fonds de pension britanniques.
Mais c'est ça.
Oui.
Tous les fonds de pension britanniques explosaient.
Oui, la Banque d'Angleterre est intervenue pour éviter l'Armageddon.
Exactement.
On est bien d'accord. Oui, mais on n'est pas obligé d'annoncer des programmes économiques avec des trucs complètement lunaires pour qui allument le feu. Moi, je veux bien, mais...
Et le jour où la Banque Nationale Suisse décide de dépeguer le dollar et où ça met un bazar insensé sur les marchés,
je me souviens.
Les fonds de pension... c'est vraiment la martingale, c'est vraiment ce qui va nous sortir de notre dépendance au système de retraite par répartition. C'est chaud quand même.
Il s'agit absolument pas de remplacer la répartition. Il faudra mettre de la capille à côté. Tout le monde le fait. J'entendais ce matin sur BFM TV une jeune femme de je sais plus où là, la ville de du Sopt, qui était au SMIC et qui disait qu'elle mettait de l'argent de côté malgré son SMIC pour préparer sa retraite parce qu'elle se rend bien compte que le système par répartition, il commence à craquer un peu de tous côtés. Mmh. Voilà, on n'est pas obligé de faire des erreurs de politique monétaire ou des erreurs politique qui allume des incendies. Si on n'en fait pas, sur le long terme, normalement, on doit pouvoir rendre soutenable un système de retraite avec un peu de capi et de la répartition. En tout cas, la répartition, quand on va vers du... On est à 1,7 actif pour un retraité. Le jour où on a un actif pour un retraité, ça veut dire que sur chaque bulletin de salaire, on prélève l'intégralité d'une pension pour la verser à un retraité. Bon.
C'est chaud, mais c'est un choix politique.
En tout cas, on peut raconter ce qu'on veut, mais on donne tous les éléments les éléments d'info, y compris le prix, y compris la composition. Et c'est vrai que là, la composition des réformes de retraite qui nous sont proposées, la liste des ingrédients n'est pas complètement finie. Alors le prix, il n'est pas là.
Ouais, ça, on peut pas se faire l'idée. Merci Nicolas,
voilà.
C'était très intéressant.
Merci.
C'était cool. Tout de suite, en portefeuille.
Tout pour investir. En portefeuille.
Et en portefeuille, qu'est-ce qu'on met? Réponse avec Jérôme Fauvel, cofondateur de JF Conseil. Bonjour.
Bonjour.
On en parlait justement hors antenne. C'est vrai que c'est deux histoires... alors, on classe ça dans les biotech, rapidement, parce que voilà, c'était le mauvais lit à l'époque. Mais on a deux titres liés au secteur de la santé. C'est vrai qu'ils sont fascinants, qu'ils sont sur de la technologie médicale au service de l'humain. Donc, Mauna Kea, et puis alors, nanobiotique, ça fait des années qu'on en parle. Parlez-nous un petit peu...
Mais comme Mauna Kea, ça fait également des années.
Oui, c'est vrai que c'est des titres...
Ils sont introduits à peu près à un an près, 2011 pour l'un et 2012
alors,
pour l'autre.
Alors, l'histoire, c'est quoi pour vous, justement, d'avoir ça, justement...
De Mauna Kea, donc ce que je vais dire, je le tient du fondateur il y a presque une décennie, c'est-à-dire que dans l'espace, un trou noir, ça ne se voit pas. Je parle de Mauna Kea. Un trou noir, ça ne se voit pas, on le déduit par les étoiles qui sont englouties dans ce trou noir.
Par les calculs gravitationnels.
Donc, en tout cas, Monsieur Sacha Loiseau, qui est le fondateur de Mauna Kea, donc en 2000, et qui était auparavant astrophysicien à la NASA, a conçu un appareil selon un principe qui lui est cher, c'est-à-dire avoir une vision précise et claire de ce qui est invisible à l'œil nu. Et donc, de là est né le premier Salvisio laser, son produit, qui, en fait, permet d'avoir une imagerie de l'ensemble des cellules, un système d'imagerie qui permet de voir les cellules d'une manière très assez précise, grossie et en temps réel, et qui permet surtout de détecter d'une manière très très précoce les cellules cancéreuses qui sont juste en dessous de la peau. Donc c'est
le trou noir
avant que ça ne se voit avec une radio. dans son monsieur Loiseau donc a inventé ce système. Et tout au début, en fait, il était surtout destiné à l'intestin. Ensuite, ça a été l'œsophage. Ensuite, ça a été l'estomac. Et maintenant, il est utilisé pour détecter, par exemple, des nodules pulmonaires qui ont cette particularité de ne pas pouvoir être détecté par une radiologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal de malignité de la part de ces nodules. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, Monakea a sorti un système, toujours avec le Cellvisio, mais basé sur l'intelligence artificielle, c'est le mot magique en bourse.
Storytelling.
Donc, voilà. Qui, en fait, permet de détecter des kystes pancréatiques et qui sont bien souvent... source de cancer. Et donc, la société a également un autre produit qui devrait venir dès 2028, donner à peu près 50 millions de chiffre d'affaires, c'est l'intolérance alimentaire.
Oui, donc ça c'est aussi une dynamique de développement absolument incroyable. C'est avec les cancers, avec la lutte contre l'obésité, les intolérances, c'est le driver du moment pour l'industrie pharmaceutique et pour les sociétés liées à la santé.
Exactement. Donc il y a deux produits majeurs qui vont certainement bien profiter à la société en matière de croissance. Donc la société a 250 brevets. Donc elle a été cotée en 2011, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec pour la première fois de son histoire un EBITDA positif. C'est la première fois qu'il y a un EBITDA positif, et surtout d'1,2 million pour un chiffre d'affaires de 10,5 millions, qui est le deuxième chiffre d'affaires de son histoire. Et pour 2024, en fait, la société anticipe une croissance de l'ordre de 20%. Donc ça continue, si je puis dire. Alors, terminons en indiquant que la société, en fait, a vu arriver des actionnaires importants du type Johnson & Johnson qui a pris 18% du capital entre 2019 et 2021. Et d'autre part, en 2023, il y a eu deux choses importantes. C'est Telix, c'est un groupe australien qui a pris 19% du capital. Et également, la société a vendu un accord de licence à une société chinoise pour environ 9 millions. Juste en conclusion sur cette valeur... Pour ceux qui m'écoutent depuis quelques mois, presque un an, en fait, je parle quelquefois de valeur de remplacement. Valeur de remplacement, ça veut dire que ça donne une valeur de... C'est-à-dire, si quelqu'un voulait faire la même chose, combien faudrait-il qu'il dépense ? Oui. Et donc, il faut savoir que la société a dépensé depuis le début 120 millions et la capitalisation est de 24 millions seulement. Donc, c'est Johnson, c'est certainement quelque chose d'important pour l'histoire de la société.
Alors, un tout dernier petit mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur Nanobiotics. C'est une valeur aussi qu'on regarde depuis très longtemps et qui, là aussi, est à la pointe de l'innovation.
Oui, alors donc, en fait, pour aller très, très vite, en fait, c'est M. Lévy, donc, parce que souvent, sur ce type de société, ce sont les dirigeants qui ont une très, très grande importance. Donc, a eu une nouvelle approche thérapeutique qui est entièrement brevetée sur les nanoparticules. Et donc, dans le cadre de nanobiotiques, ça s'appelle les nano X-ray. Donc, en cancérologie, il faut savoir que la radiothérapie est la base du soin des tumeurs pour les diminuer ou les éliminer. Et en fait, 50% des patients atteints de cancer sont obligés de passer par la radiothérapie. Donc, les nanoparticules de nanobiotiques ont été conçues pour augmenter la dose de rayon X dans la tumeur, c'est-à-dire qu'on injecte un produit, le NBTXR3 exactement, dans la tumeur. Et en fait, il y a un double avantage. Non seulement les rayons X sont focalisés sur la tumeur, donc peuvent détruire la tumeur plus facilement, et d'autre part, comme les rayons X sont focalisés sur la tumeur, ils ne vont pas dans les corps sains qui sont juste à côté. La société a traité son premier patient en 2011. En 2019, première autorisation de mise sur le marché pour le cancer des tissus mous. Et en date d'aujourd'hui, donc, il y a plusieurs possibilités, notamment sur le cancer de la prostate, du foie, du pancréas, du poumon. Et surtout, c'est là où c'est le plus avancé sur les tumeurs solides du tête et cou. Et en fait, je terminerai rapidement là-dessus. Donc, a signé en juillet 2023 un accord avec Janssen, qui est une filiale de Johnson & Johnson.
Fait, oui.
On retrouve Johnson, c'est le point commun peut-être entre les deux.
Fait, oui.
Donc, qui en fait permet, c'est une licence qui permet le co-développement et la commercialisation du produit. Nanobiotics garde un certain nombre de choses, la fabrication, l'approvisionnement et le contrôle opérationnel, sauf pour un produit, le cancer du poumon. Et je terminerai là-dessus. Donc la société a touché des fonds de la part de Janssen, et au 31 mars 2024, la société affichait pratiquement 59 millions de trésors, lui permettant d'avoir une visibilité jusqu'au troisième trimestre 2025. Il faut savoir que si tout se passe correctement, Nanobiotics pourrait toucher 2,7 milliards de dollars d'intéressement, de royalties. Ouais.
Merci Jérôme Fauvel. Donc Mauna Kea et Nanobiotics, vraiment deux très belles histoires à regarder en bourse, deux très belles histoires de développement médical. Merci Jérôme Fauvel, fondateur de JF Conseil. Dans un instant, on retrouve votre coach.
Tout pour investir, le coach.
Alors, on retrouve votre coach. Votre coach ce matin, c'est Benjamin Watin, fondateur de SoWeFun. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qui est destructeur, on va dire, ce sont les tabous au sujet de l'argent. Parce qu'à force de ne pas en parler, on le gère n'importe comment. Donc voilà, est-ce que, selon vous, l'argent est appelé à devenir un sujet de moins en moins tabou et de moins en moins crispant, finalement ?
C'est vrai que il y a une vraie réticence des Français à parler d'argent. C'est quelque chose qui est, c'est un phénomène qui est culturel, qui est profond chez nous, les Français. Ça part de phénomènes culturels historiques, sociaux et psychologiques. Les Français n'ont pas envie de parler d'argent parce que l'Église était, par exemple, très influente à l'époque et a invité à garder un peu de modestie, à ne pas étaler son argent. Donc en passant par l'Église, la Révolution française, jusqu'à aujourd'hui, le tabou social qui est, vous et moi, en tout cas, je ne le sais pas, mais moi, dans mon enfance, on m'invitait, on disait que parler d'argent, c'était impoli, voire vulgaire.
Oui.
Eh bien, ça crée un certain nombre de tabous. Heureusement, la parole se libère, et c'est la bonne nouvelle du jour. Elle se libère de plus en plus grâce à des émissions comme la vôtre, grâce à des émissions plus grand public, comme Qui veut être mon associé, par exemple, où on parle de start-up, d'entrepreneurs, et on essaye de promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation. Et puis, il y a aussi ces acteurs, des réseaux sociaux, ces influenceurs. Vous recevez sur ce plateau des Yoann Lopez avec sa newsletter Snowball, ou des influenceuses richissimes qui sont des youtubeuses. Bref, plein d'initiatives qui font que ça fonctionne de mieux en mieux et qu'on parle de plus en plus d'argent, et c'est important parce que c'est ce qui va permettre aux Français, eh bien, de préparer leur avenir, le financement des études de leurs enfants, la retraite, l'achat de la maison.
Bien, on a de nouveaux acteurs quand même qui étaient jusque-là assez discrets dans le domaine de la gestion. Je parle de la gestion active.
Bien sûr.
C'était les femmes et les plus jeunes. Finalement, c'est un truc de vieux. Là, parler d'argent, gérer son argent, c'est un truc de vieux dans l'intellect. Bah non, plus du tout. C'est terminé, et c'est surtout, avant tout, un truc de femme maintenant.
Eh bien, heureusement déjà. Mmh. Et en effet, les femmes s'emparent de plus en plus du sujet. À en voir le grand succès justement de newsletters comme Vox ou Plan Cash aussi, que vous recevez sur ce plateau.
Oui, ouais, tout à fait.
C'est hyper important. Ça permet, on espère, ça leur permet une plus grande autonomie financière et demain une place plus importante, plus inclusive dans notre société, dans le monde économique. Pareil pour les jeunes qui s'emparent aussi du sujet avec d'autres acteurs. Ça va être sur des TikTok, des influenceurs TikTok ou des influenceurs YouTube. Bref, ça va vraiment dans le bon sens.
Y a un intérêt, vous semblez penser, de plus en plus pour le private equity, pour la prise de risque. Alors ça, c'est marrant parce que le premier truc moi, auquel je pense bêtement, bon, je vais aller regarder en bourse, il y a quelques bonnes affaires à faire. Ben non, pas forcément. Là, il y a des dynamiques de développement supplémentaires, selon vous, là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, avec toute cette éducation financière, on s'intéresse de plus en plus à toutes les classes d'actifs. Et un chiffre important avant de parler de private equity, ce qui est incroyable, on vient d'entendre mon confrère juste avant parler de valeurs boursières, et vous êtes très bien placé là-dessus. Il faut savoir que 12% des Français détiennent des crypto-monnaies, des crypto-actifs, les bitcoins,
oui, c'est assez
Ether,
fou, ça, ouais.
Face à 7% de Français dans les actions.
Ouais.
Donc ça, déjà, c'est assez incroyable. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne vais pas me positionner là-dessus aujourd'hui.
Non, parce que après, ça existe. Voilà.
Exactement. Ouais. Ce qui est vraiment très intéressant, par contre, c'est que je pense que, personnellement que ça a beaucoup participé à l'éducation financière de la jeunesse et que, justement, ça leur permet de mieux comprendre comment les finances fonctionnent et d'être amené à prendre des risques. Et si on revient au private equity, ben on voit que le private equity est une classe d'actifs qui, sur les 10 dernières années, a été plus rentable que les actions, puisque 14% versus 8%, je crois, pour les actions, et 6% pour l'investissement locatif.
Oui, parce que nécessairement, en plus, le private equity, on n'a pas de valeur de marché, on n'a pas de benchmark. Quels supports, finalement, sont les plus employés du côté du private equity pour les investisseurs particuliers ?
Aujourd'hui, il y a différents supports. En tant qu'investisseur particulier, vous pouvez vous adresser, grâce à ces nouvelles fintech et ces plateformes de financement participatif, d'abord, vous pouvez vous appuyer sur des nouvelles sociétés qui viennent de lever pas mal de financement, comme Ramify ou des Moonfair, qui vous donnent accès, en fait, à des fonds de fonds, à des montants relativement accessibles. On parle quand même d'une trentaine de milliers ou cinquantaine de milliers d'euros.
Ouais.
Puis après, vous avez les acteurs comme SoWeFund, les plateformes d'investissement participatif qui vous permettent d'avoir accès à des dossiers à partir de 500 euros, 1000 euros. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui a participé à la démocratisation, quelque part, de ce secteur. C'est vraiment rendre accessible le financement. Grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on peut y avoir accès en ligne, donc on n'a pas besoin d'aller voir un conseiller pour avoir accès à ce produit. C'est de pouvoir investir à partir de montants accessibles, 500 euros, 1000 euros dans des projets. C'est la diversification de tous ces, de tout ce portefeuille auquel vous pouvez avoir accès. Et ce qui est important aussi, et ça c'est un élément différenciant, c'est la transparence. La transparence qu'on a aujourd'hui avec ces plateformes où sur SoWeFund vous allez avoir accès au business plan de l'entrepreneur, au CV des entrepreneurs,
j'ai vous dire, vaut mieux, parce que vous êtes en train de nous expliquer, et c'est très bien justement qu'on a accès à plus d'instruments, plus de solutions d'investissement. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas risquées pour autant. Si on regarde bien, là, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le Bitcoin est quand même passé de 63 000 à 56 000 en deux jours.
Ouais.
Bon, faut quand même être prudent sur cette classe d'actifs. Mais malgré tout, vous pensez que étendre l'accessibilité à ces solutions d'investissement, c'est, d'une manière ou d'une autre, accentuer la culture économique de ceux qui épargnent.
C'est accentuer la culture, et puis on voit bien que les Français ont envie de donner du sens à leur épargne. Ils veulent savoir où va leur argent, et ça c'est quelque chose qui leur est proposé sur des plateformes, sur des différents acteurs et différentes fintechs. On veut plus de transparence, les Français veulent plus de transparence. Et puis pour limiter ce risque, il faut le rappeler, et il faut diversifier un maximum. Un élément de réassurance potentiel est aussi d'investir aux côtés de professionnels du secteur. Bref, il y a de quoi faire avec le non-coté. C'est quand même une valeur qui a démontré qu'elle était solide et très rentable, et pas de risque, pas de rendement.
Ça, c'est évident, hein, que ce soit le coté, le non-coté, les cryptos. Enfin, les cryptos, le rendement, c'est encore autre chose, c'est assez technique. Benjamin Watine, fondateur de SoWeFund, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Deuxième heure de Tout pour investir dans quelques instants. On se retrouve pour parler notamment immobilier. On va retrouver Marie Cœur de Roy et son invité du jour, Stéphane Briand, du pôle immobilier de Net Investissement. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.